comme on est tous les deux passionnés de nouvelles technologies, forcément, on a toujours des conversations où on essaie d'améliorer l'idée de l'autre. On aime bien dire que c'est un ping-pong entre nous, où le but, c'est toujours d'arriver au meilleur résultat avec nos deux idées, tu vois.
Bienvenue dans Scope. Aujourd'hui, je suis avec Florian Beaufreton, qui travaille beaucoup avec des youtubeurs, qui a également ses propres clients en freelance. Et on va voir ensemble le parcours qu'il a mené à faire des vidéos high-tech pour des chaînes YouTube. On va aussi aborder le système de référencement de vidéos par la plateforme YouTube. Comment faire pour faire une belle vignette, un bon titre, et générer des vues et des abonnés. Si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire, je vous invite à vous inscrire via le lien qui est dans la description.
Alors, en fait, si tu veux, mon école de cinéma, déjà, c'était en 3 ans. Il y avait deux années où c'était un peu généraliste, on voyait tous les aspects du cinéma. Et la dernière année, c'était une année où on pouvait se spécialiser. Et moi, j'avais choisi l'option montage et post-production. Parce qu'à la base, je m'étais dit, bon, j'adore le cinéma, j'aimerais bien travailler dans des studios d'effets spéciaux, des trucs stylés où tu fais des effets de malade dans genre Harry Potter ou Star Wars, ou des trucs dans le genre, tu vois. On avait un stage d'un mois à faire en troisième année et j'avais postulé dans un studio qui nous permettait de travailler sur un des films Astérix à l'époque. On devait faire, comme tout stagiaire, de la rotoscopie, donc tu sais, image par image, détourer, par exemple, un personnage ou, je sais pas quoi, un dromadaire, un truc dans le genre. Et je devais faire ça pendant un mois. On était plusieurs de ma classe à avoir ce stage, parce que pour les besoins du film, ils prenaient beaucoup de stagiaires. Et à un mois, ou même pas, ouais, je crois, à un mois du stage, en fait, on a appris que le studio avait fait faillite. Et que du coup, notre stage est annulé, tu vois.
Ah ouais, d'accord, sympa.
Donc voilà, coup dur. Donc on devait tous retrouver un stage en urgence parce que c'était dans un mois et c'était un peu short. Et à ce moment-là, j'avais commencé à regarder sur... je crois que c'était même pas sur YouTube, c'était en podcast vidéo sur iTunes. Il y avait à l'époque la chaîne Techno. La chaîne Techno, c'était donc deux journalistes tech qui s'étaient associés et qui faisaient des contenus où ils parlaient de nouvelles technologies. Et moi, ça m'intéressait trop à ce moment-là. Et du coup, je m'étais dit, bah écoute, je vais les contacter vraiment au culot et je vais leur demander s'ils ne veulent pas un stagiaire pour faire des vidéos, quoi. Et quelques jours plus tard, le responsable de la Web TV me recontacte et me fait, bah écoute, on ne prend pas normalement de stagiaire, mais là, on a envie de faire une vidéo par jour. On veut se lancer à faire une vidéo par jour sur les nouvelles technologies. On a besoin de quelqu'un pour nous épauler. Écoute, on aimerait bien essayer de faire... faire ça avec toi, quoi. Donc déjà, il fallait que j'aille à Paris. Moi, qui n'avais jamais été à Paris de ma vie, il fallait que j'aille à Paris pour faire mon stage. C'était un peu perturbant au départ, tu vois. Donc en fait, j'ai commencé à faire ce stage. J'ai appris à monter des vidéos sur Sony Vegas, alors que j'avais commencé, moi, à apprendre sur Final Cut et qu'à l'école, on apprenait sur Final Cut.
Ah ouais, t'es passé de Final Cut à Sony, ouais. Vegas. Oh, et t'as survécu, c'est fou.
Eh ben écoute, j'ai survécu. Alors en fait, déjà, ils m'ont prêté un ordinateur portable, parce que moi j'avais un Mac, ils m'ont prêté un Windows avec Vegas dessus, et j'ai appris par moi-même au fur et à mesure à utiliser Vegas, quoi. Ça reste un logiciel de montage, il faut juste s'habituer à l'interface et à la façon du fonctionnement du logiciel, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, j'ai fait des tournages avec eux, j'ai monté les vidéos, tout ça, c'est bien passé. Et à la fin de ce stage, il restait une semaine, ils m'ont proposé d'aller au MWC à Barcelone, le Mobile World Congress. C'est un salon qui est dédié à tout ce qui est mobilité, donc les smartphones, les tablettes, les montres connectées, tout ça. Et en tant que stagiaire, ils m'ont proposé d'aller avec eux en voyage de presse et tout, faire plein de vidéos. Donc c'était vraiment trop cool.
Ça devait être intense, du coup. Comme
c'était intense, ouais, comme job, mais c'était hyper intéressant parce que ça parlait de nouvelles technologies. Moi, j'étais comme un ouf et tous les jours, je faisais des vidéos où on testait des produits tech, quoi. Donc, au départ, je ne m'y attendais pas forcément parce que c'était assez éloigné du cinéma et des effets spéciaux, tu vois. Mais c'était une autre passion que j'avais et au final, je me suis dit, c'est trop cool. Et quand ils m'ont reproposé, en fait, de finir mon stage de fin d'études de, je sais plus, 3-4 mois à la fin vraiment de mon cursus, j'ai accepté, je suis retourné à Paris, j'ai bossé avec eux. Et donc, pareil, ça s'est super bien passé. J'avais refait leurs habillages vidéo, tous les génériques des vidéos, je les ai refaits. Et à la fin de mon stage, ils m'ont dit, écoute, il y a un groupe média qui veut racheter la Web TV. Et on veut t'engager avec nous, quoi.
Okay,
Donc, c'est comme ça en fait que je suis arrivé à faire des vidéos sur les nouvelles technologies avec eux. Et au final, donc, toutes ces vidéos-là étaient diffusées sur YouTube. Donc du jour au lendemain, mon métier, c'était de faire des vidéos tous les jours sur YouTube en tant que cadreur, monteur. Et ça, je l'ai fait pendant 4 ans avec eux.
C'est pour 01.net.
01net.com, ça c'est le site web. En gros, ils proposent des actus sur les nouvelles technologies, des tests. Il y a un labo de tests au sein de la rédaction. Et donc, tous les, enfin, pas tous, mais on va dire la grande majorité des produits tech qui sortent, en général, ils arrivent au labo. Ils sont testés par des journalistes et des personnes compétentes dans ces domaines-là. Et il y a des articles qui sortent tous les jours sur ça. Et il y avait une branche Web TV sur ce site où nous, on postait les vidéos.
Parce que 01net, c'est un énorme site quand même de tech en France.
Ouais, bah c'est un des plus gros. Les numériques, il y a 01net et il y en a plein d'autres, mais ça fait partie des gros sites high-tech.
Il est dans le top 3 des plus gros, quoi.
Ouais.
Ok, d'accord. Et du coup, après, c'était quoi la suite après ça?
Eh ben, en fait, j'ai travaillé pendant 4 ans, je crois, dans cette entreprise.
En freelance ou en...
Non, j'étais engagé en CDI, en fait, dès le départ. Et d'ailleurs, ma première semaine de boulot officiel en CDI, c'était au CES de Las Vegas. Et donc, ouais, pendant 4 ans, j'ai fait ça. Donc, en gros, j'ai continué à faire avec quelques collègues, évidemment, mais on avait une vidéo ou deux par jour à faire. On a lancé des émissions avec des nouveaux présentateurs. On a fait des émissions en direct. Donc, j'ai aussi appris à utiliser un mélangeur vidéo pour faire des émissions en direct, à faire du stream. Voilà, à gérer des invités sur un plateau et tout ça, et c'était hyper enrichissant comme job. Et au bout de 4 ans, en fait, bon, au bout d'un moment, quand t'es dans une entreprise, tu essaies d'évoluer parce que sinon t'as l'impression de stagner, et du coup, il y a certains moments où tu peux être un peu bridé ou frustré, et tu vois qu'il n'y a pas possibilité d'évolution aussi rapide que tu l'aimerais. Du coup, j'ai essayé de voir comment je pouvais trouver une solution, et au fur et à mesure, tu te fais des contacts quand tu bosses, et je voyais qu'il y avait des gens qui me demandaient, bah voilà, en dehors de ton job, est-ce que tu peux me faire une vidéo, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça. Et donc je me suis lancé en auto-entrepreneur à côté, parce qu'en fait tu peux te lancer en auto-entrepreneur, faire quelques prestats de temps en temps et puis garder ton job, si ça n'impacte pas ton taf, ça va, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, j'ai pas mal de demandes, je pense que je peux m'en sortir sans mon CDI, quoi. Et du coup, j'ai décidé de partir, donc j'ai quitté cette entreprise pour devenir à 100% auto-entrepreneur. Et donc c'est comme ça qu'au final, je me suis retrouvé à devenir indépendant, à faire des vidéos pour différents clients, et voilà.
Ok, donc en fait, tu as fait de la vidéo corporate, plus ou moins ?
Ouais, j'ai fait pas mal de vidéos corporate. Alors, c'est pas les trucs les plus sexy du monde, hein, à chaque fois. C'est les trucs que t'es pas forcément... c'est pas que t'es pas fier de les montrer, mais comme c'est pas sexy et que ça parle pas au grand public, t'oses même pas montrer la vidéo, quoi. Même si la vidéo est peut-être bien pour le client, t'as pas envie forcément de la montrer à tout le monde. Et donc, j'ai fait du corpo, et j'ai aussi travaillé pas mal avec des créateurs vidéo sur YouTube aussi. Je suis resté un peu dans cet univers YouTube. Et tech notamment. Ouais, c'est pas un petit milieu, mais presque. Enfin, je veux dire, tu connais rapidement beaucoup de gens, soit de la presse, soit des influenceurs et tout ça. Et encore à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Mais tu rencontres pas mal de gens, et c'est souvent les mêmes. Du coup, au fur et à mesure, tu te fais ton réseau de personnes qui bossent dans la tech ou dans la vidéo, et c'est ça aussi qui te sert après, dans ta deuxième carrière. Tu peux nouer des liens avec des gens et puis après travailler avec eux par la suite. Et en gros, c'est comme ça que j'ai rencontré Romain Lanéry, qui a sa chaîne YouTube Tech News et Test. On était avec 01net, on était à un salon à Monaco, ça s'appelle le MedPi. Et à l'époque, Romain, je crois, il avait 15 ou 16 ans. Mmh. Et il démarrait, je crois, sa chaîne était pas du tout connue, tu vois. Il avait peut-être, je sais pas, 10 000 ou 20 000 abonnés.
Parce que maintenant, il en a combien ?
Il a plus de 800 000. Donc tu vois, et donc lui était fan de, si tu veux, mes patrons qui étaient les présentateurs de la Web TV, quoi. Donc je l'ai rencontré comme ça, mais par hasard, parce que lui, il était de Monaco. Et au final, il a continué dans YouTube et tout, et il a grossi. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, ma chaîne décolle pas mal, j'ai besoin d'aide sur la production des vidéos, je sais que ça peut fonctionner, est-ce que tu veux m'aider, quoi? Et donc, c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on a commencé à travailler de plus en plus ensemble, et que maintenant, la plupart des vidéos sur sa chaîne, je travaille sur le cadrage et le montage pour l'aider, quoi.
Quel est le pourcentage de temps que tu dédies à ce client qui est du coup Romain Lannery?
Alors, ça dépend des mois et des projets qu'on a. Il y a certains moments où lui est de son côté en déplacement, il a des projets perso et tout, donc je l'accompagne pas à chaque fois, mais on va dire, si on fait une moyenne, je suis à plus de 60% avec Romain pour l'aider sur ses prods. Mais en fait, c'est logique parce qu'il produit deux vidéos par semaine. On alimente souvent son compte Instagram avec des photos, donc on a plein de projets aussi qui se développent, même sur le long terme. Donc forcément, ça demande du temps et j'en passe beaucoup avec lui, quoi.
Deux vidéos par semaine, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est énorme.
Ouais, en fait, oui, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup. Et surtout que moi, avant, je faisais une vidéo par jour quasiment avec mon ancien job. Et je me suis dit, bah ça va, c'est tranquille, deux vidéos par semaine. Mais en fait, le fait de rien que de trouver l'idée de la vidéo, parce qu'on essaie de trouver des concepts qui peuvent être un peu différents à chaque fois, de trouver le concept, de préparer la vidéo, de tester le produit, de faire les plans, de faire le montage, enfin tous ces trucs-là, la mise en ligne et tout, ça demande du boulot, ouais. Donc,
Et du coup, le fait de travailler avec Romain de Tech News & Test, toi en fait, tu as un rôle aussi stratégique, en fait, vous parlez de la stratégie ensemble et tu l'aides un peu à faire des trucs, enfin, ouais. Vous êtes presque associés en fait.
Quasiment, parce qu'en fait, comme on est tous les deux passionnés de nouvelles technologies, forcément, on a toujours des conversations où on essaie d'améliorer l'idée de l'autre, tu vois. Ouais. Par exemple, je vais avoir une idée ou Romain va avoir une idée, l'autre va forcément essayer de rebondir en disant, bah écoute, l'idée est bonne, mais est-ce que si on fait ça, ça, ça et ça, ça va pas améliorer le truc? Et du coup, on aime bien dire, c'est un ping-pong entre nous, où le but, c'est toujours d'arriver au meilleur résultat avec nos deux idées, tu vois.
Mais je ressens un peu la même chose parce que, comme tu sais, je travaille au même endroit que Louis, ouais, de la chaîne Grain. Et du coup, c'est pareil. En fait, la plupart du temps, quand on se parle, quand on travaille, ouais, c'est on teste les idées sur l'autre pour voir si elles sont viables. Et en fait, on les améliore petit, ouais, à petit en discutant. Et c'est vrai que c'est un énorme atout de pouvoir faire ça, quoi.
Ouais, c'est vraiment cool parce que quand tu es en binôme, tu as toujours… quand tu es tout seul, tu as l'incertitude de… Enfin, tu sais jamais si ton idée est bonne ou pas. Et quand tu travailles avec quelqu'un de façon assez proche, genre voilà, où t'es en face au bureau avec lui, vous avez tout de suite la réponse, en fait. Tu te poses une question, t'es pas sûr, tu lui demandes, il va te dire si oui ou non c'est bien ou pas, et il va te dire, ah, tu peux l'améliorer en faisant ça. Et ça, c'est génial, parce que du coup, ça, déjà, de un, ça te rassure, et en plus de deux, tu ressors avec une idée qui est peut-être meilleure que celle que t'avais à l'origine. Donc, s'il y a un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer en vidéo, justement, c'est… Alors, c'est pas donné à tout le monde, mais si vous avez un pote ou quelqu'un de proche qui est dans le même domaine que vous, n'hésitez pas à lui demander des conseils ou juste à vous parler pour améliorer vos idées, quoi.
Et du coup, moi, je voudrais savoir un peu qu'est-ce que tu as appris d'autre en travaillant avec Romain, en travaillant avec un YouTuber, du coup.
C'est, à mon avis, chaque YouTuber ou chaque créateur est différent dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de travailler. Et donc là, j'ai la chance d'être avec Romain, qui est très, très organisé, très méticuleux, assez perfectionniste. Et du coup, on essaie toujours d'avoir le meilleur résultat possible, que ce soit en tournage ou en montage. On fait toujours l'effort d'avoir une lumière correcte, d'avoir un son correct, même si ce n'est pas toujours facile. Et voilà, mais on apprend aussi parce que, tu vois, on fait des erreurs de tournage comme tout le monde. Il y a des trucs qui marchent pas, il y a des bugs techniques comme tout le monde, et du coup c'est pas toujours simple, mais voilà, c'est de l'entraide permanente en gros, et de bosser avec un YouTuber, il y a toute la logique aussi des abonnés, enfin des gens qui regardent les vidéos, parce que là c'est pas juste, t'as pas un client où il faut qu'il soit satisfait du rendu, là tu donnes ton travail à plein de gens pour le regarder, et tu te prends en face plein de commentaires, plein d'avis, plein de haine parfois aussi. Donc il faut aussi apprendre à gérer ça et se dire, ben voilà, il y a plein de gens qui n'aiment pas la vidéo, mais est-ce que c'est dû à mon travail? Est-ce que c'est dû à… Enfin, à quoi c'est dû en fait? Et donc c'est aussi de se faire un petit peu une carapace sur ce truc-là, quoi.
YouTube, c'est avant tout une communauté, en fait. Les abonnés sur les chaînes, les milliers d'abonnés, c'est des vraies personnes qui sont, ouais. qui sont là, qui posent des questions, qui échangent. Et c'est dingue parce que du coup, quand tu fais des vidéos après, que tu commences à avoir quelques abonnés, tu commences à visualiser qui y a de l'autre côté et ça change la donne. Effectivement, quand tu as un client, tu sais que ça va dépendre. Il y a une ou deux personnes qui vont juger ton travail à la fin. Bon, ouais. Voilà. Et ça, on t'apprend jamais en école de cinéma, tu vois. Ce côté-là, audience, communauté, comment faire pour, je sais pas, référencer une vidéo, comment faire pour susciter l'intérêt et tout. Ouais. C'est formateur.
Ouais, il y a plein de choses, il y a plein de choses à découvrir et c'est ça qui est très intéressant. Mais au final, on s'est rendu compte que, tu sais, on parle souvent sur YouTube des titres putaclic ou des titres aguicheurs et tout ça. Mais en fait, c'est aussi compréhensible à un certain niveau. Après, il ne faut pas non plus basculer dans n'importe quoi, mais... si ta vidéo est exceptionnelle, mais qu'elle a un titre et une miniature qui sont totalement nuls et pas intéressants, personne ne va cliquer dessus, tu vois. Même si ta vidéo est la meilleure du monde, les gens ne vont pas la regarder, quoi. Et c'est un peu dommage, parce que le but de YouTube et de la plateforme vidéo YouTube, qui est quand même communautaire, c'est que les gens regardent ton contenu et ce que tu as fait. Donc c'est aussi pour ça où, au fur et à mesure, sur YouTube et sur la chaîne avec Romain, on essaie au moins de travailler un minimum l'angle de la vidéo, et donc le titre, même avant le tournage parfois. Et la miniature, ça joue aussi énormément, parce que si l'œil n'est pas attiré, si l'œil du spectateur n'est pas attiré par la miniature, il ne regardera pas ta vidéo, quoi. Donc au final, tu es un peu obligé de donner ce côté un peu waouh directement dans la photo. De la vidéo, tu vois.
Moi, j'ai appris récemment une technique de communication pour choisir un titre que je ne connaissais pas. C'est qu'il y a un titre, il faut que pour qu'il soit excellent, il faut qu'il y ait une notion de bénéfice, de curiosité et de nouveauté.
Ah ouais ?
Tu vois, l'expression de visage, en fait, ce serait peut-être la curiosité. Tu vois, tu dis, mais pourquoi il réagit comme ça ? Ouais. Ensuite, la nouveauté, ça peut être dans le titre. Le dernier DJI Osmo, je ne sais pas quoi. Et après, le bénéfice, ça peut être le meilleur stabilisateur pour vos vidéos, tu vois. Si tu as tout ça dans ton titre, dans ta vignette et tout, c'est là que tu t'attrapes l'attention.
Tu vois, je n'avais pas tous ces éléments-là, mais après, instinctivement, on le fait aussi sans le savoir, tu vois. C'est juste ce genre de truc, c'est aussi... à force de consommer du YouTube et à force d'en faire, on sait un peu aussi que ce genre de choses marche. Mais ouais, c'est vrai que tu es obligé un peu de survendre, on va dire, ta vidéo presque, pour que les gens la regardent. Et après, bon, ça fait partie du jeu. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut l'accepter, parce que sinon, tu décolleras jamais, quoi. Je dis ça, c'est pour les gens qui visent vraiment l'audience. Si tu veux vraiment décoller, on va dire, entre guillemets, sur YouTube et avoir des vues, des followers, machin, tu vas être obligé de faire ce genre de choses. Tu peux pas faire une vidéo avec un titre ultra simple et sobre qui est très factuel. Et une miniature genre avec juste extrait de ta vidéo et rien, pas de retouche, rien, et t'attends à faire 1 million de vues, tu vois. Faut aussi surfer sur l'actualité et ce qui marche, que les gens recherchent. Il y a plein de choses, mais c'est ça qui est aussi très intéressant dans YouTube et dans les moteurs de recherche en règle générale. C'est il y a plein de techniques et d'améliorations pour arriver à faire de l'audience. Mais ça marche pareil pour les sites médias et tout ça, hein, tu sais. Je reprends l'exemple de Zéro Net, mais forcément, quand tu crées des articles, si tu veux que ton article remonte, c'est que ta page remonte dans Google, tu es obligé de mettre, tu vas mettre des mots-clés, tu vas mettre des titres avec une accroche qui va interpeller les gens. C'est le même principe, en fait, hein, mais tu t'améliores au fur et à mesure. Quand tu commences une chaîne YouTube, en général, c'est rare où dès les premières vidéos, tu es au top en termes de titres, de description et de mots-clés, tu vois.
YouTube, ce que c'est en train de m'apprendre, ou même ce podcast, c'est faut apprendre à pas être parfait.
Ouais.
Et pour faire ça, ce que j'essaie de faire, c'est de m'imposer des contraintes techniques, tu vois.
Ouais.
Genre par exemple, ce podcast, j'ai pas acheté, comme je te disais tout à l'heure, les derniers micros haut de gamme qui marcheraient super bien. J'essaie de me limiter en mettant des contraintes, et ça me force un peu à être plus créatif, tu vois, en fait.
De s'imposer des deadlines serrés et de se contraindre à ne pas utiliser le dernier matos qui coûte le plus cher, parce que sinon tu te dis que c'est nul, c'est important, quoi. Parce que du coup, là par exemple, sur ce podcast, Ok, il y a du bruit dehors, il y a des travaux, mais bon, en même temps, tant pis, quoi. Tu vois, ça fait partie du jeu, c'est les conditions actuelles. Tu vas pas retoucher ton audio pendant 3 semaines pour qu'il soit parfait, tu vois, t'as pas le temps. Mais au final, est-ce que c'est si important que ça? Non.
Du coup, toi, tu vois tout le temps Romain qui cartonne quand même sur YouTube et qui vit de ça. Ça te donne pas envie, toi, en tant que vidéaste, ça t'ouvre pas une porte où tu te dis, tiens, je pourrais faire la même chose ou ouvrir ma chaîne et vivre de ça, tu vois?
En fait, je pense que c'est une question aussi de personnalité. Il y a certaines personnes qui aiment bien être devant la caméra, qui sont à l'aise aussi à l'oral, tout court, hein, tu sais, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais qui est aussi inné. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé, d'assez timide, et j'ai toujours aimé être derrière la caméra. Et donc, j'ai entre guillemets ma tranquillité. Et aussi, c'est un kiff personnel d'être derrière la caméra, de toucher le matériel, de le régler, de faire le cadre et tout. Et c'est cool. Et c'est pas que j'en ai pas envie, mais je me sentirais pas forcément à l'aise à ouvrir ma propre chaîne YouTube et à être face caméra, à parler à des gens. Tu vois, il y a le syndrome de l'imposteur, tu vois ce que c'est?
Ouais, ouais, je vois très bien.
J'ai toujours le truc où je me dis pourquoi je ferais ça, moi, en fait, qui je suis pour parler de tech ou de vidéo, tu vois. En fait, il y a tellement de gens qui parlent et qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire. Je me dis toujours que les gens vont s'en foutre de mon avis et que ça ne sert à rien, tu vois. Et donc, c'est vraiment ce truc-là où, de un, il y a mon tempérament qui fait que je ne suis pas forcément hyper à l'aise en face caméra. Et de deux, le côté légitimité où je me demande toujours si ça a un intérêt que moi, je donne mon avis.
Ouais, je comprends. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est un truc que tout le monde a ressenti au moins une fois.
Ouais, je pense.
Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Par exemple, quand j'ai fait quelques vidéos tuto, je me dis, mais attends, mais je suis qui, moi? Fais de la vidéo depuis combien de temps? Tu vois, je suis pas le maître Yoda de la vidéo pour l'instant, donc comment je peux me permettre de donner même des conseils, tu vois? Et au final, non, parce qu'il y a toujours un mec plus fort que toi, il y a toujours un mec moins fort que toi, et ça peut, t'es toujours utile à quelqu'un, donc
ouais,
c'est ça que
sûr.
Je pense qu'il faut se dire. Mais ouais, après, c'est sûr que t'as quand même ce blocage psychologique de base qui te titille de temps en temps. Mais je voulais te dire, si jamais tu trouves un format YouTube dans lequel t'as pas besoin d'être forcément face caméra, et imagine que tu trouves le format parfait et où tu te sens pas... T'as pas cette pression-là, est-ce que tu pourrais envisager ça comme carrière?
Comme carrière, je sais pas, parce que c'est... quand tu arrives à avoir une certaine audience sur Internet et sur YouTube, c'est du boulot que de gérer, entre guillemets, ta communauté, tu vois. Parce qu'il y a tellement de gens qui viennent te poser des questions, qui te demandent ton avis, qui te sollicitent pour tel ou tel truc. C'est hyper chronophage, et je sais pas si j'aurais envie de gérer ce genre de choses.
C'est un métier d'entrepreneur, parce que c'est ça que tu dis un peu.
Ouais,
c'est
d'entrepreneur, mais après, c'est aussi c'est une partie de ta vie privée, quoi, aussi. Enfin, ça te demande énormément de temps, et du coup, c'est comme tout métier de freelance. Mais je veux dire, à un certain stade, par exemple, je reprends l'exemple de Romain, parce que c'est ce que je connais le mieux. Quand tu es interpellé dans la rue assez régulièrement, parce qu'on on t'a déjà vu dans certaines vidéos, qu'on te connaît, qu'on veut une photo ou un truc comme ça. Quand t'es dans un mood, dans une ambiance boulot, ça va, mais quand t'es avec ta famille ou quand t'es, je sais pas, avec des potes ou n'importe quoi dans la rue, tu vois, c'est pas le truc qui fait le plus rêver au final. Il y a certaines personnes qui peuvent se dire, c'est trop bien d'être connu, c'est trop bien d'être célèbre, machin. Il y a certains moments où il faut comprendre aussi que chacun a sa vie privée, tu vois. Donc, en tant que, enfin, en carrière, je me pense pas. Okay. Après, pour le plaisir et transmettre des choses, pourquoi pas. Mais comme tu dis, il faudrait un peu le format idéal qui me débloque pour faire ce genre de choses.
Si je me mets dans la peau d'un vidéaste qui commence, il se pose forcément, je pense, à un moment donné, cette question de YouTube ou pas YouTube. Est-ce que toi, t'as l'impression que c'est une option maintenant pour les vidéastes?
Pour moi, il faut pas le voir comme une option, parce que à la base, la plupart des youtubeurs qui cartonnent maintenant, qui sont là depuis, je sais pas, 5-10 ans, ils ont commencé en étant passionnés et en faisant leurs vidéos sans se rendre compte de l'impact que ça allait avoir et sans se dire que ça allait pouvoir leur apporter de l'argent et un métier. Si ça marche et que les gens accrochent à ton travail et à ta personnalité, c'est cool et vraiment continue dans ce domaine-là. Et si tu y crois à mort, faut que tu continues, mais faut pas que tu dises je veux devenir youtubeur. C'est pas le truc. C'est YouTube, ça va me permettre de créer des vidéos, de partager ce que j'aime et de m'améliorer dans mes techniques vidéo, dans tout ce que tu veux. Et si ça marche, tant mieux. Mais je pense pas que dès le début, il faut te dire je veux devenir youtubeur, quoi.
Ok, ouais, je comprends. Si tu commences en te disant tiens, ça doit être cool d'avoir 1 million d'abonnés et d'avoir une communauté, et que c'est ça que tu vises, si c'est ça ton objectif, il y a peu de chances que ça marche. Par contre, si ton objectif, c'est de te dire j'aimerais pouvoir parler de tech avec le plus de monde possible parce que je suis passionné de ça, si tu le fais bien, de toute façon, il y a des gens qui vont te suivre et de toute façon, il y aura des clés qui vont se débloquer pour pouvoir gagner ta vie avec. Voilà, mais c'est sûr qu'il ne faut pas prendre la chose dans le mauvais sens.
C'est ça. Il faut partir d'une bonne intention et de se dire que c'est pour partager quelque chose que tu aimes. Et au passage, tu vas accrocher des gens et tu vas être suivi et les gens vont regarder ce que tu fais. Mais faut pas partir dans le but de faire de l'argent en faisant des vidéos, quoi.
Du coup, tu m'avais aussi dit que tu étais bénévole pour un festival. Ouais. Tu peux m'en dire plus ?
Ça, c'est une longue histoire. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis originaire de la campagne, donc dans l'ouest de la France, en Vendée, plus précisément. Et juste à côté de chez moi, dans le village d'à côté, il y a un festival de musique qui existe. Et tous les étés, il y a une dizaine de dates où il y a des concerts. Et quand j'avais 16 ans, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit « Mais il y a une équipe vidéo dans le festival et toi, ça t'intéresse un peu tout ça. Est-ce que ça ne te dirait pas d'essayer, quoi ?» Et donc, j'ai postulé, je suis rentré dans cette équipe vidéo et c'est un festival qui fonctionne qu'avec des bénévoles, en fait. Et donc, j'y connaissais rien, tu vois. J'avais juste utilisé un peu le caméscope de mes parents ou l'appareil photo, mais je connaissais vraiment rien. J'avais jamais fait de montage de ma vie. Et donc j'ai intégré cette équipe, il y avait, je sais pas, 4 ou 5 personnes à ce moment-là. Et donc le but, c'était, pendant les concerts, de faire quelques images du concert, de faire une interview peut-être de l'artiste, si on avait le droit, et ensuite de faire des interviews des gens dans le public à la fin pour récolter leur avis, tu vois. Et après, derrière, on faisait un petit montage vidéo qui allait être diffusé sur le site du festival. Donc j'ai été formé, en gros, par des bénévoles qui maîtrisait les outils, donc les caméras et le logiciel de montage.
Donc en fait, c'était vraiment ton terrain d'entraînement.
C'est ça. En fait, j'ai pas tout appris, mais presque. Enfin, j'ai appris à cadrer, j'ai eu des conseils de gars qui bossent dans l'audiovisuel depuis 10 ans et qui étaient bénévoles aussi. Et c'est comme ça que j'ai appris plein de choses, en fait. Ça m'a permis d'ailleurs de rentrer dans l'école de cinéma que j'ai fait après, parce que comme j'avais juste 2 ou 3 ans d'expérience déjà dans l'audiovisuel, en ayant filmé des concerts, en ayant fait du montage, que je connaissais déjà les logiciels, ça a vraiment aidé pour que je puisse rentrer dedans.
Ouais, t'as dû gagner un temps précieux par rapport peut-être à d'autres personnes.
Carrément.
Parce que c'est dingue de pouvoir commencer déjà sur le terrain. Ouais. Parce que des fois, tu commences, tu filmes des feuilles. Hein. En gros, tu filmes ton chat, tes potes. Et voilà. Mais là, tu commences avec une équipe technique qui peut te conseiller.
C'est ça.
Bien entouré, quoi, c'est dingue.
Ouais, c'était trop bien. Et du coup, c'était genre une grosse caméra épaule, tu vois, les trucs un peu à l'époque hyper, hyper pro. C'est la première fois que je touchais une grosse caméra, donc déjà, savoir ce que c'était le point, savoir ce que c'était le diaph, tous ces trucs-là, je connaissais pas non plus. J'ai vraiment tout appris avec eux. Et au fur et à mesure, l'équipe s'est professionnalisée au fur et à mesure des années. Et maintenant, on est une vingtaine, on a une mini régie, on a une grosse régie avec 6 caméras sur le festival. Il y a 4 cadreurs plus 2 caméras robots. Et la particularité, c'est que tous les bénévoles changent de poste tous les soirs. Donc en gros, tu peux te retrouver un soir à cadrer en bord de scène l'artiste, un autre soir à cadrer au niveau de la régie, au milieu du public, toute la scène. Le lendemain, tu peux être à la régie en train de réaliser le concert. Donc, c'est-à-dire que tu parles à tous les cadreurs via un casque et tu donnes tes indications de plan et c'est toi qui choisis quelle caméra est diffusée sur les écrans qui sont de chaque côté de la scène. Tu peux faire ce qu'on appelle ingévision. En gros, c'est toi qui vas gérer à distance l'ouverture, le diaph de chaque caméra.
Ah ouais, je savais pas que ça existait.
Tout ça, tu vois, je le connaissais pas non plus. Et grâce au festival et à ces équipements-là, et aux gens qui sont dans l'équipe, j'ai appris un peu tous ces métiers-là et c'est trop bien, quoi.
D'ailleurs, c'est un bon terrain d'entraînement, même quand tu es juste spectateur, tu peux très bien apprendre à faire de la vidéo juste avec ton iPhone et tu filmes plusieurs concerts, la foule et tout, il y a moyen de faire des trucs sympas.
Ah oui, carrément, mais après, tu vois, l'équipe vidéo s'est étendue, on a maintenant toute la partie captation avec les gens qui filment avec les grosses caméras et tout ça, et on a une partie social media, et là, c'est plutôt des gens qui se baladent avec soit des smartphones, soit des petites caméras, soit des GoPro, des choses comme ça. Et eux, ils vont faire des plans un peu plus ambiance dans le public, des trucs un peu plus originaux, et faire des montages pour les réseaux sociaux derrière. Et donc ça, c'est une autre partie, une autre branche du festival. Mais du coup, c'est ce que tu disais, c'est avec des moyens un peu plus faibles, tu peux arriver à faire des contenus hyper, hyper sympas, quoi.
Avant de finir, je voulais te poser juste une dernière question. C'est quoi le matériel tech que tu as préféré en 2018 ?
Alors, le meilleur, je ne sais pas, mais le truc de fou de fin d'année, c'était le DJI Osmo Pocket, en fait. Imagine la caméra d'un drone DJI, par exemple, avec une petite poignée accrochée, et ça te fait ton stabilisateur vidéo où tu peux le mettre dans tous les sens. Il est stabilisé, tu peux marcher avec, tu auras des plans stables. Et c'est tout petit, donc tu peux le caler n'importe où et ça te fait des plans de fou.
Et il y a un petit écran aussi où tu peux voir un peu ce que tu filmes.
Ouais, exactement. Il y a un petit écran, donc tu peux voir le retour vidéo juste en dessous. Donc, juste pour le côté compact et créatif. Et donc ce produit-là. Et après, alors je ne l'ai pas beaucoup essayé, mais je sais que le drone DJI Mavic 2 Pro, techniquement parlant, c'est incroyable.
Les drones, quand je vois les images, peut-être un peu trop perfectionniste, mais je trouve que ça moutonne trop vite. Il y a une perte de détails trop rapide. Quand tu filmes, par exemple, je sais pas, une forêt, tu as vu de dessus, ça devient vite un peu flou. Et là, enfin, quand je vois les images du Mavic 2, je me dis, ah là, c'est commence à être sérieux. Et on peut avoir des belles images, quoi. Après, ils ont fait un partenariat avec Hasselblad, non ?
Ouais, c'est ça.
La taille du capteur est plus grande et du coup, il y a vraiment des images plus cool.
C'est ce qui permet d'avoir cette qualité. Et du coup, on l'a testé un petit peu là dernièrement aux États-Unis. Et c'est vrai que même en regardant sur un écran plus grand et tout, tu as l'impression d'avoir une vraie caméra dans les airs et tu peux vraiment l'utiliser, quoi.
Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à ce 4e épisode.
Avec plaisir.
À bientôt.
Salut.
L'épisode est maintenant terminé. Si vous avez été inspiré, vous pouvez laisser un avis et noter ce podcast. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai mis un lien dans la description qui permet de recevoir du contenu exclusif par email. À bientôt sur Scope dans un prochain épisode.